Bezem. Comme j'ai dit dans le SMS, la Teshuvah au Beit Chabad,
c'est
toute l'année. D'accord? Parce que c'est justement après Yom Kippour qu'on réalise que même si, justement, d'après ce qu'on a expliqué dans le Tanya, que même si Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, c'est pas chou, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Mais maintenant, on aimerait quand même, pas réparer, mais on aimerait être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant. Donc amener le fameux bouquet de fleurs. Et on avait, comme on expliquait la semaine dernière, c'est à propos de ça qu'ont été instaurés tous les jeux. Ça, c'est le, si on peut résumer en deux mots, ce qu'on a utilisé dans les deux premiers chapitres de Yigirat Teshuva. On a expliqué en deux mots, les gens pensent que c'est quoi la Teshuva? La Teshuva, c'est la mortification, c'est la souffrance, etc. C'est une erreur. C'est pas ça la Teshuva. C'est quoi la Teshuva? En un mot,
retour.
La Teshuva, c'est la décision de retour. D'accord, le point de retour, pas le point de non-retour, le point de retour. Voilà, j'ai décidé, pack, dorénavant, je reviens. Voilà, ça, je pense que tout le monde est passé par là à Kippour, normalement. Bon, peu importe le milieu dans lequel vous avez prié. Donc, une petite
livre.
Ah, d'accord.
Vous donnez un mauvais point.
Alors,
comment ça fait comme ça avec
donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est évident que chacun, même ceux qui ne sont pas venus à la synagogue, c'est évident que leur neshama est passé par ce point-là, le point de retour, qu'on a envie de retourner. Alors, la question qu'on se pose, dans ce cas-là, à quoi servent tous les jeunes qu'on a vus? On avait donné quelques exemples de jeunes la semaine dernière, du Harizal, des jeunes, bon, l'un plus bizarre que l'autre, quoi, sur des Averot, que pour nous, ça nous paraît même pas d'Averot, 71, 91, 104, on a l'impression que c'est les enchères pour les jeunes. Attends, où on va, là? D'accord? Ça, on a expliqué à Edmond Razakan, il a dit que ça, c'est pas la Tchouva. Ça n'a rien à voir avec la Tchouva. C'est pas ça, la Tchouva. La Tchouva, c'est uniquement la décision de retourner. Tous les jeunes ont été faits pourquoi, hein? Les jeunes ont été instaurés uniquement pour être chéris aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant. Pour essayer de montrer qu'on a envie de réparer le mal qu'on a fait. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que la Tchouva sert au fait qu'Akadosh Baruch Hu fait comme si qu'il s'est rien passé. Mais il s'est quand même passé quelque chose. J'ai envie de réparer. J'ai envie de changer. J'ai envie d'enlever le mal que j'ai fait. Ah, pour ça vont venir les jeunes, la tzedaka, et à l'époque, les korbanot. D'accord? Mais il faut savoir que théoriquement, mais il faut savoir que techniquement parlant, avec la teshuva, avec la décision de faire teshuva, en un instant, on peut passer du stade de racha gamour à tzadik gamour. Ça c'est catégorique, c'est la Gemara qui dit, c'est pas du Zohar, c'est la Gemara qui dit clairement. Bon. Maintenant la question, comme j'ai dit la semaine dernière, la question qu'on va se poser aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Là, ça c'est, là pour l'instant c'était assez général. La teshuva c'est retourner, les jeunes, etc. Ça sert à quoi? Ça sert, on a expliqué, à le bouquet de fleurs pour être chéri aux Akadosh Baruch Hu comme avant. D'accord. Bon, ça c'est de manière générale. À la limite, ça aurait été relativement simple si une personne fait une avéra par année, ou au maximum deux avérotes par année. Parce que là, bon, tu lui dis 151 jeunes pour la colère, par exemple, bon, comme on a dit, ou bien celui qui a oublié une fois le Kriyat Shema, on a dit 61 jeunes. Bon, celui que ça lui arrive, on va dire, une fois par année, deux Averot par année, il peut s'en sortir. Comme on sait qu'on est très très loin de ça, ça serait bien qu'on s'arrête à une Avera par jour. Donc techniquement, c'est impossible, donc on perd notre temps. Je veux dire, bon, c'est bien joli tout ce qu'il dit, mais on perd notre temps. Surtout, encore pire, et c'est en général comme ça que le Yetzer Hara nous a, qu'est-ce qui se passe si pendant l'année, on a refait plusieurs fois la même Avera? En général, bon, il y a des avérotes sur lesquelles le Tzahara ne casse pas les pieds, mais il y a certains avérotes sur lesquels le Tzahara vient, tac, et te refait tomber à chaque fois, et te refait, tu retombes. Alors si j'ai fait 30 fois à la Avera, 20 fois à la Avera, 50 fois à la Avera, 100 fois à la Avera, alors voilà, comment je fais? Quoi, je fais 100 fois 84 jeunes? 100 fois 151 jeunes, c'est quoi cette histoire? C'est impossible. Ça sert à rien, c'est pas réaliste du tout. Alors c'est une question qui a été posée par le Chachamim, après le Harizal. Alors ceux qui sont venus de la génération après le Harizal. D'accord. Ici, ils les appellent les Chachmé à Moussar, comme le livre du Chaye Adam, etc. C'est-à-dire que c'est juste après le Harizal, il y a environ 500 ans. Pas le Moussar moderne, comme on connaît aujourd'hui. Le Moussar, les Chachmé à Moussar, qu'on les appelait à l'époque de Morazakan, on appelait les sages qui étaient juste après le Harizal. D'accord. Ça veut dire ceux qui ont commencé à se baser sur ce que le Harizal a dit pour créer une approche de service, d'Avodat Hashem, de service divin. Alors il dit comme ça. Donc on commence directement, Perek Gimel. Perek Gimel, nous sommes page 183. Vous savez?
Veine.
Chachmé à Moussa, Aharoni. Donc les sages du Moussa. Les sages du Moussa, à Aharonim, les derniers. Quand on dit les derniers, ça veut dire ceux qui étaient après le Harizal. Parce que là, jusqu'à présent, on remarque qu'il y a un ordre, comme l'Admor HaZaken a présenté. Tout d'abord, dans le premier chapitre, il a amené la Mishnah. Il nous explique qu'est-ce que c'est la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est, comment il nous expliquer trois catégories de Averot. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on nous a ramené les Korbanot, les sacrifices. Ensuite, on a amené la destruction du Beth Amikdash. Comment on faisait? Là, on a commencé à expliquer que dès que le Beth Amikdash était détruit, on a dit qu'il y avait différentes personnes qui jeûnaient, mais c'était pas ordonné. Il n'y avait pas de, il n'y a pas de structure. Ensuite, on a avancé plus loin dans le chapitre 2. On a dit, ah, le Harizal a instauré un nombre précis de sacrifices pour chaque Avera. Donc, vous voyez qu'on va, plus on avance et plus on suit les générations. On a commencé par la Mishnah, enfin, d'abord par les Psukim, après la Mishnah, après la Gemara, après le Harizal. Maintenant, Perek Gimel, on dit, ben, après le Harizal, Chachmei HaMoussar HaCharonim, les sages, donc du Moussar, les derniers, ça veut dire ceux qui étaient après le Harizal, Nechleku, ils étaient en Machloket, Bemi Shechata Chet Echat Te'amim Rabot. Celui qui a fait une Avera, plusieurs fois. La même Avera, plusieurs fois. Ah, il y a une Machloket. Il y a une Machloket, d'après vous. Avant d'avancer, d'après vous. Un tour de table. Par exemple, quelqu'un, il a fait 20 fois la même Avera. Est-ce qu'il doit faire 20 fois le nombre de jeunes?
Exactement la même.
Alors, exactement la même Avera. Exactement la même. La même. Quand 20 fois, il refait la même Avera.
Il y a deux avis. D'accord. Un qui bon. Dit qu'il fait un seul jeune.
Attends, une seconde. On va essayer de réfléchir. Quand on avance un point de vue, il faut expliquer pourquoi.
Bah, si on a expliqué... Si tu dois compenser...
Alors, attends. Principe, tu dois faire non, c'est très simple. Attends. On a expliqué que le jeûne remplaçait le sacrifice. Donc, pour répondre à la question, en vérité, il faut aller chercher chez qui? Chez le sacrifice.
Et on apportait à chaque fois un sacrifice.
Ah, très bien. Alors, on va se réfléchir ensemble pour le sacrifice. Comment ça se passait? Est-ce que pour le sacrifice, quand je fais 10 fois la même Avera, est-ce que j'amène 10 sacrifices ou est-ce que j'amène un sacrifice?
Tout dépend de l'intervalle.
Avant d'avoir fait d'amener le sacrifice.
Ah, bonne question.
Bah oui.
Pose la question, il dit tout dépend de l'intervalle. Alors, c'est une bonne question. Oui. D'accord? La Mishnah Shabbat explique la chose suivante. Elle dit, si une personne, il s'est trompé d'un jour, il était dans un endroit dans lequel il y avait un endroit qui n'était pas civilisé, où il n'y a pas de civilisation, et il s'est trompé d'un jour, et du coup, pour lui, le jour qu'il croyait être Shabbat, en vérité, c'était vendredi. Mais du coup, tous les vendredis, il a fait Shabbat, nickel. Et le lendemain, Shabbat, il a profané. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient, qui dit, monsieur, vous êtes trompé d'un jour. Ça fait des années que ça dure. Donc, c'est pas une fois qu'il a transgressé Shabbat. C'est pas une Avera, c'est des milliers d'Averas qu'il a fait. Donc, la question qu'on se pose dans la Mishnah Shabbat, c'est dans le 8e chapitre, c'est ça, c'est combien, on sait qu'on amène un Korban Khatat pour un oubli. Mais combien d'oublis il y a ici? Est-ce qu'il y a 10 000 oublis ou est-ce qu'il y a un oubli?
Il y en a un qui a fait tout le reste.
Qu'est-ce que dit la Gemara? La Mishnah Shabbat, elle a dit non, il y a un seul oubli.
Ah oui,
c'est puisqu'il y a un seul oubli, combien de Korban il doit amener? Un Korban. Par contre, si il s'est pas trompé du jour, il savait très bien que c'était Shabbat, il savait très bien que faire 7 melachas c'était assur, vous savez. Mais chaque Shabbat, il a oublié. Là, on lui compte chaque Shabbat un oubli différent, donc du coup, il amènera un Korban par Shabbat. Troisième cas de figure, il sait que c'est Shabbat, donc il s'est pas trompé sur les jours, mais par exemple, il savait pas que cuire c'est assur. Il savait pas. Pendant des années, il a cuit. Et un jour... D'accord. Et un jour, quand il lui dit, mais monsieur, vous savez pas, c'est un sort de cuir.
Un sacrifice.
Très bien. Donc, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que pour un korban khatat, quand on a fait une avera, a priori, on doit amener un korban par oubli. D'accord? Un korban par oubli. Donc, on va reprendre l'exemple de celui qui a fait la avera. D'accord? Il va amener un exemple ici, on va dire l'exemple qu'il va amener ici. Et on va essayer d'analyser ensemble cet exemple. D'accord? Donc, des yeshomrim, il y en a qui disent. Chez Tsarich Leit Anot, il doit jeûner. Mispar Atsomot, le nombre de jeûnes, Léotochet, pour cette faute-là. Pe'amim Rabot, autant de fois qu'il faut. Ça, c'est un premier avis. Kefi a Mispar Asherchata, comme le nombre qu'il a faute. Et il amène un exemple. Il amène un exemple de quelque chose de très grave. On expliquera après pourquoi il a choisi particulièrement cet exemple. Parce que, avec cet exemple-là, il va réussir à mettre en image tous les détails qu'il va expliquer par la suite. Kegon, par exemple, Amotsi Zera Levatala. Amotsi Zera Levatala, je sais pas comment il traduit ça ici, celui qui fait sortir de la semence en vin.
Une émission séminale en vin.
Comment? Une émission séminale en vin. D'accord, bon. Chez Mispar Atsomot Amforosh Betikune Tshuva Maharizal, que le nombre de jeunes... Alors c'est une avéra qui est très grave. Pourquoi c'est une avéra qui est très grave? Parce que, d'un côté, c'est pas vraiment interdit de la Torah, mais d'un autre côté, le dommage et le dégât qu'on fait en faisant cette avéra, c'est aussi grave qu'une avéra sur laquelle on est chayav karet, retranché du peuple juif.
D'accord. Cette avéra dont on parle, c'est à Kippour, ça nous arrive, chayav shalom.
Oui. Quoi?
Il y a du moment.
On parle de faire exprès.
Non, sans faire exprès.
Là, on parle de faire exprès, là, ici.
Non, on parle de faire exprès.
Bien sûr, évidemment.
Et celui qui fait même sans faire exprès pour Kippour, même sans faire exprès,
oui, Kippour c'est particulier, mais là on parle toute l'année, non, mode 6, ça veut dire faire sortir.
Il n'est pas de la Torah.
Oui. Il n'y a pas vraiment d'interdiction de la Torah.
On parle pas de Al-Kishpor, ça.
Oui, d'accord. Mais c'est pas bon, c'est.
Pourquoi Al-Kishpor?
Quoi?
Mais c'est pas.
On dit que Er et Onan.
Pour Kippour.
Ils sont morts, oui, d'accord? Er, ils sont morts, d'accord. Mais c'est pas bon. D'accord?
Ils sont morts parce qu'ils voulaient pas avoir d'enfants.
Eux, ils sont morts pour une autre raison. Ils sont morts parce que quand ils avaient des relations. D'accord? Ils s'assuraient pour qu'il n'y ait rien qui rentre.
Ils savaient que dans leur descendance, ils allaient.
Voilà. Bon. Quoi qu'il en soit.
Et ceux qui apportent ça, ils n'ont jamais été. Je parlais de. Tout le monde. Jamais personne n'a apporté. Pourquoi? Ils ont dit que c'est très grave.
De quoi?
À celui à qui ça arrive, le soir de Kippour, sans exactement dire ce qu'il va y avoir. On dit simplement la personne doit faire attention toute l'année, elle doit faire ses chouettes toute l'année.
Très simple, parce que le jour de Yom Kippour, on doit être pur. Ce genre de cas, on doit être pur à 100%.
Il ne peut pas se tremper au migvé en plus.
Personne qui a ça, il ne peut pas se tremper au migvé. Ça veut dire qu'il passe la majorité du jour de Kippour dans un état d'impureté. Okay. Donc pour l'année Shama, c'est un dégât énorme. C'est aussi simple que ça. Après, il doit y avoir des raisons à le Picabala, mais bon, techniquement, c'est aussi simple que ça. Il n'a même pas le droit de se doucher.
Ouais,
il doit juste nettoyer l'endroit.
Pourquoi on dit qu'il est toute l'année qui arrive, celui à qui ça arrive ça, toute l'année, il doit faire...
Parce que c'est un signe du ciel, que c'est grave.
Voilà, c'est parce que voilà. C'est, on dit que ça lui est arrivé, que c'est pas lui arrivé n'importe comment. C'est que c'est un signe qu'il a été envoyé.
Donc, on revient à notre sujet. Donc, une personne, d'accord, qui a fait cette avéra plusieurs fois. Donc, c'est pas une perte nocturne. D'accord. Oui, la traduit ici, c'est une...
Pure.
Non, c'est pas une perte, là. Non, avant.
Une émission.
Oui, une émission.
Émission télé.
D'accord. Une émission volontaire. Alors, Amotsi Zera Levatel. Chez Mispar Atsomot, Ameforaj Betikune, tu vois, ça veut dire, quand je dis émission volontaire, ça peut vouloir dire aussi se mettre dans une condition dans laquelle il y a une émission. C'est la même chose. Chez Mispar Atsomot, Ameforaj Betikune, tu vois, Marizal, M. Pédalet Taniot. Le nombre de jeunes qui ont été écrits dans Tikkun et Tshuva du Arizal, donc c'est un livre qui s'appelle Tikkun et Tshuva, c'est 84 jeunes. 84, c'est le nombre qui a été fixé par l'Arizal. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, d'après ce premier avis, Ve'im Chata Bazé, Eser O Esrim Pe'amim, si une personne a fauté 10 ou 20 fois, alors, il y a plusieurs détails qui nous dérangent ici. D'abord, pourquoi il a choisi cet Avera? D'accord? Il y a plein d'Avera, il a trouvé que cet Avera. Une Avera qui est particulière, après il a choisi cet Avera. Deuxièmement, pourquoi une dizis, il a fauté 10 ou 20 fois? C'est que, comme j'ai dit plusieurs fois, chaque lettre dans l'Admor HaZaken, chaque lettre du Tania est très très précise. Enfin, qu'est-ce qu'il veut? On verra. Alder Machal, Tsarich Leit Anot, Eser Oesrim Pamim Pedalet. Donc, 10 fois 84, ça fait combien?
840.
20 fois 84, ça fait combien?
1720.
1680. Très bien. Vechen Leolam. Et donc, pareil, c'est-à-dire s'il a fait 100 fois, ben 100 fois 84. D'accord. Il va mourir de faim.
Ça fait 5 ans qu'il jeûne.
D'accord. Alors pourquoi, pourquoi? C'est quoi la raison de ces kabbalistes-là? Ils sont venus après l'Arizal. Ils disent, c'est très simple. Rappelez-vous l'exemple que je donnais de Shabbat. Ils disent, d'où il y a des korban tratat. C'est pas que le gars, il savait pas que c'était interdit. Il savait que c'était interdit. Chaque fois son Yitzhara, il est venu, il a tourné la tête pour qu'il refasse l'Avera. Donc combien d'oubli il y a eu? Si c'est pas un oubli, enfin combien d'Avera il y a eu? Eh ben, il y a eu, si c'est 10 fois, ben, il y a eu autant de fois. Chaque fois, c'est une autre avéra. Chaque fois, le Yitzhara, il a dû lui remettre quelque chose dans la tête. Donc, ça fait 20 fois. Donc, 20 fois, comme le Korban Tratat. Puisque tu me dis que les jeunes remplacent le Korban Tratat. C'est ce que je viens de me dire. Donc, dans ce cas-là, Doumiat des Korban Tratat, comme le Korban Tratat, Shechayav Lavi Alkol Pam ou Pam, qu'il a l'obligation d'amener un Korban sur chaque fois qu'il a fauté, sur chaque oubli. Chaque fois qu'il a fauté. D'accord? Donc là, à la limite, on est déjà gentil, parce que, attention, c'est pas exactement comme un korban tratat. Parce que le korban tratat, on pouvait l'amener uniquement quand on était involontaire. Là, c'est du volontaire. Mais puisque tu me dis que ça vient pour remplacer un korban, si tu me dis que ça vient pour remplacer un korban, et ben dans ce cas-là, il faut 84 fois le nombre de fois qu'on a fauté. Alors, on peut réfléchir comme ça, hein, mais on peut réfléchir autrement. On peut dire, attends, ça marche pas comme ça. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que là, la personne, tu m'as dit que cette chouva a déjà été acceptée. Donc, si cette chouva a déjà été acceptée, la raison pour laquelle il jeûne, c'est comme un bouquet de fleurs. Ah, le bouquet de fleurs, ça ressemble à quel sacrifice? Ça ressemble au sacrifice tratat, ça veut dire à l'expiatoire, ou ça ressemble plutôt au korban ola, à l'holocauste? C'est-à-dire qu'on offrait à Kadosh Barou comme ça, parce qu'on a envie d'offrir à Kadosh Barou. Le bouquet de fleurs, si tu me dis que c'est des jeunes types bouquet de fleurs, bah, ça ressemble peut-être plutôt à Ola. Vous voyez le dilemme qu'on a ici. D'un côté, c'est des sacrifices que j'amène, d'un côté, c'est des jeûnes que je fais pour essayer de d'effacer une faute que j'ai fait. Donc, ça s'apparente à Khatat. Donc, si ça s'apparente à Khatat, c'est une fois par Avera que j'ai fait. D'un autre côté, tu m'as dit que la Teshuva a déjà été acceptée, et que là, c'est seulement un bouquet de fleurs que j'amène pour être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch comme avant. Par rapport à ça, ça s'apparente à du Ola. Et donc, dans le Korban Ola, on avait un principe que on amène une seule fois un Korban Ola, pas 10 fois, pas 100 fois. Alors on fait quoi?
On a vu que c'était qu'il ne pouvait pas avoir de teshuva là-dessus.
Sur quoi?
Sur ce type de faute. Tu m'as dit que c'était assimilable à Ariel Pérez.
On va voir.
Mais que ça suspend.
On verra. Ça, je n'ai pas encore parlé. On va parler de teshuva.
Ça suspend.
D'accord, on va voir. Mais ça ne change pas. Quoi qu'il en soit, la teshuva, on a expliqué qu'une fois qu'il a fait la teshuva, c'est fini. La teshuva est acceptée. Une fois qu'il a décidé de revenir, c'est accepté.
Seulement... Mais si on fait la faute, il n'a jamais décidé de revenir.
Ah non,
il non a mais, décidé... Attends, tu peux très bien avoir décidé de revenir, il refait la faute.
Ben oui.
Si on réfléchirait comme ça dans les couples, on n'avancerait pas. Hein.
Et décidé... ça y est, une seule fois tu as piqué colère et après c'est fini.
Non. Tu ne peux pas, parce que c'est comme ça. Parce que l'une personne, parce que Akadosh nous a créé avec un Yetzer Tov, avec un Yetzer Hara, il y a un combat constant. Et même si on décide sincèrement, après on peut retomber. D'accord. Là on est encore sous l'emprise de Yom Kippour, mais... Une fois que Sukkot va passer, Simchat Torah, etc., et ça, il va revenir à la charge.
Ouais, mais je suis pas pareil. D'accord. Pour le couple. Quand tu prends une décision un jour de Yom Kippour et tu dis, je fais comme ça, il faut être fort pour ensuite faire comme si
ça n'avait pas fait. Sarah, il est très très fort.
Oh.
Bien.
Non, mais si toi, tu l'as pas dit. Aucune prétention. Je dis le type, il dit à Kippour. Voilà,
donc ça. Finalement, tu as plus besoin de refaire Kippour l'année prochaine, quoi.
Mais non.
Bah si, t'es nickel quoi, alors.
Mais non.
Moi, je veux te dire quelque chose. Moi, je veux te dire quelque chose. J'ai remarqué, le jour même du Yom Kippour, tu vois, Neila, les gens, ils sont au summum, ils sont là, ils sont en plein dedans, tu vois. Tu vois, la Neila est terminée, Ama arrive. Il suffit que le Khazan, il reste une minute de plus pour le Kaddish, il se fait incendier. Il y a un problème. À la Neila, tout le monde était plus feu tout flamme. 5 minutes plus tard, c'est fini, les gars, ils pensent qu'à manger. Maintenant, 5 minutes, hein. Il n'y a rien, il y a 5 minutes. Quelque chose que tu peux voir clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une courbe, il y a des moments très forts et après tu vois les gens.
Ce qui me paraît compliqué concrètement, hein, c'est que quelqu'un quand il connaît rien, il vient dans la religion, etc. Très bien. Et là il fait teshuva, fastoche.
Attention. Fastoche pourquoi?
Parce qu'il sait pas à quoi il
s'attend. Attention. Fastoche pourquoi? Pour être accepté, pour qu'on lui en reparle plus. Mais il répare pas le dégât.
D'accord, ok, mais il sait pas exactement ce qu'il demande. Il sait pas exactement ce que c'est son retour.
Oui.
Or, quand tu commences à rentrer un peu dans les détails, etc., et que tu commences à comprendre ce que ça veut dire de faire vraiment une teshuva,
oui,
ça paraît, excuse-moi, vachement prétentieux de pouvoir penser qu'on peut faire teshuva. Parce que non. Le niveau de... Ah si, après tu sais ce que c'est qu'un tzadik gamour.
Encore une fois, je vais reprendre. Il y a une erreur qui est faite constamment. D'accord. Non, j'ai compris la question. Yaakov, ce que tu comprends, c'est qu'il faut réfléchir. Ce qu'il faudrait rajouter ici, c'est que, généralement, je l'ai expliqué au cours d'avant et au cours d'avant encore, mais c'est pas grave, on répétera autant de fois qu'il faut. Il faut réfléchir à long terme. On réfléchit pas à court terme. Ça veut dire que quand une personne décide de revenir, il n'est pas en train de dire que je vais devenir un tzadik. C'est pas le but.
Oui.
Non.
Il a dit, je fais choix sur tout.
Non, bien sûr. Mais il n'est pas en train de dire, demain, je suis un tzadik. Il est en train de dire, je veux changer, je veux devenir quelqu'un de bien. Maintenant, c'est un grand mot, quelqu'un de bien.
Comme dans la chambre. Mais je veux, c'est un grand
d'accord.
Mot.
D'accord. Oui.
Ça veut dire quoi,
je veux devenir quelqu'un de bien.
J'aimerais bien. D'accord. Je voudrais.
Oui. Mais... ça y est, c'est déjà teshuva. Maintenant, après, ça prend du temps. Comment on devient bien? Ça prend du temps. D'accord.
On l'a déjà dit ça il y a 2 semaines.
Oui. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mahloket entre les Mekoubalim. Hein? C'est quoi la Mahloket? Mahloket entre les Mekoubalim. Qu'est-ce qu'on fait si une personne a fauté plusieurs fois la même avéra? Est-ce que ça doit s'apparenter au Korban Khatat? Et donc,
oui,
dans ce cas-là...
10 et 20, alors tu disais tout à l'heure.
Attends, on va voir après les détails.
D'accord.
Donc, est-ce que ça doit s'apparenter, allez messieurs,
à Ola ou à...
D'accord. Très bien. Non, je sais. Alors, certainement. Est-ce que ça doit s'apparenter au Korban Khatat? Et donc, du coup...
On le fait à chaque fois.
Donc, du coup, s'il a fauté 20 fois, eh ben, c'est 20 fois 84.
Ou alors, la teshuva
ou bien, est acceptée. Ou bien, étant donné que la teshuva est acceptée et que le, tu me dis que les jeunes sont uniquement comme un bouquet de fleurs, dans ce cas-là, à quel sacrifice doit s'apparenter? Au korban hola.
Mais si c'est apparenté. Parce que t'as fait un chassat ta première.
Non. Elle est acceptée parce que j'ai décidé de retourner.
D'accord.
D'accord. Donc, j'ai rien fait, non? Donc.
Juste. Quand est-ce que tu décides? C'est-à-dire, après chacun, c'est.
Ah non.
Chacune des affaires. Bah,
ben non, j'ai décidé. Voilà, j'ai décidé dans un moment propice, j'ai décidé,
donc
ça y est.
On a accumulé un certain nombre de fois, et à ce moment-là, on prend une décision.
À ce moment-là, on prend une décision.
Et là, on te dit, soit tu dois faire 20 fois, soit tu fais.
Voilà. Maintenant, je veux. La teshuva, je l'ai eu. Dieu, il m'a pardonné. Ça y est. Oui, qui pourrait passer,
c'est au bout de la 20e.
D'accord? Oui, bien sûr. Donc, c'est au bout de la 20e fois. La question que je me pose, c'est, comment je répare le mal que j'ai fait? Donc, il y a une machloquette. Il y en a qui disent que je fais seulement une fois. D'accord? Donc, on va commencer par le premier avis. Le premier avis dit que je fais autant de fois le nombre de jeûnes que de Avera que j'ai fait. C'est-à-dire, si j'ai fait 20 fois la même Avera, donc 20 fois les émissions nocturnes, comme il a dit ici, là, l'émission s'est mise. Donc, 20 fois 84 jeûnes. Si j'ai fait 20 fois, j'ai fait 100 fois, 100 fois 84 jeûnes. J'ai fait combien 100 fois 84 jeûnes?
8400.
Hein?
Facile. 8400.
8400, bon non. Le gars.
C'est ça.
Oui. Il y en a pour combien d'années alors?
100 fois 84, 8400.
Bon, il y en a pour 25 ans à peu près.
1400? 1400?
D'accord.
Oui, il y en a pour 20 ans.
Et qui après, il faut que
tu vas. C'est vrai que c'est pas l'important. Tu sais que c'est interdit.
Non, mais c'est interdit. Si t'as pas fait
tout. Quoi?
Ça fait un mois que tu
voilà.
T'as pas compris?
C'est très guillé. Non. Non, non, vas-y, laissez-le poser la question.
Mais si la personne n'a pas encore fait tout.
Oui.
Je ne sais pas à quel point c'est interdit, à quel point c'est grave.
Non, encore une fois. Les gens pensent que teshuva, ça veut dire prendre conscience que c'est grave et qu'on t'explique le mouvement de la teshuva et les cours, etc. Bon, c'est pas ça la teshuva. C'est le nom qu'on lui donne. D'accord? Teshuva, c'est pas ça. Teshuva, c'est la décision de mieux se comporter.
Décision de retour.
Non. Ça n'a rien à voir.
Il a fait ses trucs, il a décidé un moment.
Je donne un exemple. Imagine-toi, tu as quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Pas bien.
Ouais.
Bon, il n'est pas bien dans sa peau. Il décide, il prend l'avion, il va en Israël, il va dans un séminaire, Chozrim Bitshuva. Et là-bas, on lui bourre le crâne comme il faut, il fait Tshuva.
Pourquoi bourrer le
d'accord
crâne?
D'accord? Non, c'est pour le. D'accord? On le formate, on lui explique, etc. Il revient, il est. Bon,
c'est un
fanatique. D'accord? Bon. Je pose la question. D'après toi, la teshuva était quand? Était quand il était en Israël au séminaire? Ou au moment où il se sentait pas bien et il a pris l'avion pour aller en Israël?
Avant de prendre l'avion.
Alors, au moment où il a pris l'avion, d'accord? C'est-à-dire qu'au moment, quand ça allait pas bien, ça dit, il a dit, il faut que je retourne, c'est déjà ça la teshuva. Le reste après, c'est les détails.
Ah, mais c'est après, justement, ça
non.
Là, je sais pas.
Non.
Bah, si.
Non.
Après, tu peux dire ce que tu veux, mais si tu n'agis pas derrière.
C'est pas grave.
D'accord.
Bah, ok, il peut refauter. Il peut refauter.
D'accord. Mais est-ce que la teshuva, elle est acceptée?
Bien sûr qu'elle est acceptée. Si une personne, sincèrement, est dérangée par ce qu'il fait, il sent que ça va pas bien. Il sent qu'il veut mieux se comprendre. Maintenant, il n'est pas capable d'exprimer ça dans des mots et de voir ça dans des détails, mais il sent que ça va pas bien. Il veut retourner. Il veut devenir quelqu'un de bien. Il sent que sa vie, ça tourne pas rond. Ça y est, il a fait teshuva. C'est ça une teshuva, c'est ça teshuva, c'est décider de retourner.
Prise de conscience en fait.
C'est ce qu'on t'explique.
C'est ça.
Oui mais ça c'est un travail de tous les jours.
Oui. Et c'est pour ça que tous les jours, trois fois par jour, on demande à Kadosh Baruch Hu Chazirenu b'teshuva shlema lefanecha. Et pourquoi, de quoi on parle?
Bah oui, alors pourquoi on demande
ça veut dire qu'en une journée...
Si on fait tes chouvas tous les jours, pourquoi tu veux qu'à Kippour on plus en face?
Parce qu'à Kippour, même sans avoir cette volonté, Dieu il fait que l'année chamelle fait chouvas. À Kippour on est boussé.
C'est plus à même d'accepter.
Tu comprends?
Donc c'est pour ça qu'on est encore un peu sur les hauteurs.
Voilà.
Là, hein. C'est...
Donc, Machloket, premier avis pense que si on a fauté 10 fois, 20 fois, ben c'est 10 fois, 20 fois 84. C'est ce qu'on a expliqué. Deuxième avis, Veyesh Medamin Inyante. Vous avez dans les mots?
Oui.
Trois lignes avant la fin. Veyesh Medamin Inyante. Il y en a qui font ressembler ce sujet-là. Les Korban Ola. Au Korban Ola, à Baal Mitzvah Tassé, qu'on a mené quand on avait manqué donc une mitzvah positive. Que le din est, comme c'est expliqué dans le traité Svarim, « d'afilu avar al kama mitzvot ase », même s'il a transgressé plusieurs mitzvot ase, « mitkaper berola achat », il peut se faire pardonner avec un seul korban ola, « kedeita bigmara pere kama des Svarim », comme c'est écrit clairement dans la Gemara, premier chapitre du traité Svarim. Alors quel avis on suit? Un, d'accord? Un pour toute la verote, dès que j'ai eu la décision de revenir.
On va prendre celui qui nous arrange.
Ou bien, autant de fois.
On va prendre celui qui nous arrange.
Hein, si on a transgressé un interdit, ou si on a omis de faire quelque chose qui nous a été enjoint.
Non, ça change pas. D'accord? Ça change pas.
Parce que c'est ça, c'est
non.
Ça, la différence.
Parce que là, justement, là, on explique que le problème qu'on a avec le jeûne, c'est que le jeûne, c'est ni un khatat, ni un hola. Parce qu'en vérité, j'ai déjà fait tchouva, donc la tchouva, elle a déjà effacé la faute. Le jeûne, c'est seulement, ça s'apparente au korban. Mais ça peut s'apparenter à, soit au korban khatat, puisque je le fais suite à une faute, pour essayer de réparer un peu d'effacer un peu l'impact de la faute. Soit, on peut voir ça comme un bouquet de fleurs, parce que c'est un bouquet de fleurs, et donc du coup, ça s'apparente à un korban hola, un holocauste, parce que c'est pas vraiment un expiatoire.
Et hola, quand tu as dit tout à l'heure, hola, c'est un remerciement. Quand tu dis qu'au
non, hola, il y a plusieurs catégories de hola. Il y a un korban hola qu'on a amené aussi quand on avait manqué une mise à positive. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a eu une marloquette dans la génération après le Harizal. Est-ce que c'est une fois par Avera? Donc, autant de fois que, est-ce que c'est une seule fois 84, ou est-ce que c'est 10, ou 20, ou 30, ou 100 fois, ou 356 fois 84? Ve'achra, ou et, quelle est la achra, c'est-à-dire quelle a été donc la conclusion, et on a trouvé le juste milieu entre les deux. C'est quoi? Leit anot, gimel pe'amim, kefi mispar atzomot
dechet. Voilà.
C'est de jeûner 3 fois. Donc, c'est par exemple quelqu'un qui a fauté 10 fois, 20 fois, 100 fois, on dit non, c'est ni une, ni 100. C'est 3 fois. C'est quoi 3 ? D'accord ? Donc 3 fois 84. Ça fait combien 3 fois 84 ? 252. C'est ça ?
Si, 252.
252. Il le dit après, hein, ça je le sais. Alors.
240 plus 12.
Donc guillemel, pourquoi ? Pourquoi 3 ? D'où tu sors ce chiffre 3 ? C'est soit 1, soit autant de fois. D'où tu sors ce chiffre 3 ? Rien n'explique.
C'est quoi les 84 ?
Quoi ?
C'est le Harizal qui a fixé.
D'accord. Pardon ? Pourquoi 3 ? Pourquoi 3 ? Allez, explique. Il dit Daïnou, ça veut dire Reshnun bet, Tsomot, Alotsa, Tshirvat, Zira, Lepatala. Donc sur la même Avera qu'on a dit tout à l'heure, combien de fois il faudrait jeûner ? Sur l'émission volontaire nocturne. D'accord. 252. Reshnun bet, Tsomot, Alotsa. Donc Vechen, Vichar, Khatayim, Vavonot. Donc de la même manière pour les autres Averot. Voilà, du style, celui qui s'est énervé. En plus, sur la colère, combien j'en avais dit ? 151. D'accord, donc 151 fois 3, ça fait combien ? Ça fait combien ? 453. Très bien. Très bien.
Il a fixé plus pour la colère que pour ça.
Oui. Ve'atan. Alors, la question qu'on se pose déjà, c'est d'où on sort le chiffre 3 ? Attendez, vous inquiétez pas, là pour l'instant on parle...
Oh, t'inquiète pas, on sait que tu vas nous trouver un plan B.
D'accord, non, parce que là, n'oubliez pas ce que je vous explique au début du cours, c'est que là on suit l'ordre des générations. On a commencé par la Mishnah, la Gemara, d'accord ? Après on a parlé du Harizal, après maintenant on est en train de parler des maîtres après le Harizal, et après progressivement on va arriver au Admor HaZaken, au Baal Shem Tov, au Admor HaZaken, après on va arriver au Rabbi, qu'est-ce que le Rabbi il a dit sur l'Admor HaZaken ? Ah oui, parce que plus on avance et plus... Parce qu'après, l'Admor HaZaken, il dira que bon, il y a un moyen de s'arranger avec la Tzedaka. D'accord? Mais bon, la Tzedaka, il faut être milliardaire.
Ça a déjà fait l'objet d'un
discours,
il y a des années.
J'en ai parlé brièvement dans Favre Engel.
Non, voilà.
Alors, on va voir. On va y arriver. D'accord? Donc, pourquoi 3 fois? Déjà, pourquoi 3? D'où il sort ce chiffre 3? Il dit, c'est très simple. Il dit, Ve'atam, la raison. Ou Alpi, Mashekatou, Bezoar. À Kadosh, sauf Parashat Noir. D'accord, combien ? Attends, j'ai pas encore calculé en euros, ne inquiétez pas, on va arriver. C'est structuré, attends, on n'arrive pas comme ça à l'argent. Vatam ou Albi Machekatou Bezoar à Kadosh, sauf Parashat Noir. La raison pour d'où on a sorti ce chiffre 3, c'est soit 1, soit 20. Enfin le nombre de fois. Donc ce qui est écrit à la fin de la Parashat Noir, dit comme ça. Il dit Ke Vandecha Varnash Kamekut Shabrichu. Lorsque une personne a fauté devant Kadosh Baruch Hu une fois, Zim Nachada, s'il a fauté une fois, Avid Reshu, il dit comme ça le Zohar. Il dit la première fois qu'une personne a fait une Avera, fait une trace. D'accord ? Ça veut dire que, c'est comme si vous prenez une nappe qui est blanche. Première fois qu'une personne fait l'Avera, fait une trace. Mais bon, c'est pas encore vraiment imprégné. Deuxième fois qu'il fait l'Avera, dit le Zohar là-bas, d'accord ? La trace est plus forte. C'est-à-dire que la trace est plus forte, mais elle n'a pas encore imprégné le vêtement à 100%. Dit le Zohar là-bas, Zimna Klita, la troisième fois, Tlat, qui parle l'arabe ici. Zimna Klita, la troisième fois, Itpachet Aou Kitma Mishitrada El Shitrada. La tâche a transpercé d'un côté à l'autre. vous, la troisième fois, la tâche a transpercé.
Pourquoi, excusez-moi, pourquoi les oreilles partent de noir? Qu'est-ce qu'il y a de noir?
Par rapport au Averroth que ça par rapport au Averroth que les gens ont fait, oui. D'accord.
Oui. Non, mais je vois pas où il a fait trois fois l'erreur.
D'accord. Qui? Non, pas Noir a fait l'erreur. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a démené le Maboul? Là-bas, le Zohar explique le fait que Akadosh Baruch Hu a attendu qu'il y a eu trois choses qui sont passées. Bon, peu importe le sujet. En tout cas, okay. Ce qu'on retient de ça, c'est quoi? D'accord. Ce qu'on retient de ça, c'est quoi? C'est que le Zohar dit trois fois. Donc, d'après ce que le Zohar a dit, pourquoi trois fois? Ce que le Zohar nous dit, la chose suivante. Il dit, lorsqu'on fait une Avera une fois, on laisse une trace. On fait une Avera une deuxième fois, on a accentué la trace. On fait une Avera une troisième fois, la trace a transpercé. Donc après, en d'autres termes, après tu peux faire 20 fois, 100 fois, il n'y a plus de différence puisque ça a déjà transpercé. D'accord, voilà. Donc, ça c'est l'Admor HaZaken, hein, c'est un commentaire perso de l'Admor HaZaken, il dit c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de dire que bon, c'est ni une ni 30, c'est ni 10 ni 30, d'accord, c'est 3. Pourquoi 3? Parce que bon, on te dit écoute, on va pas te dire une, on va te dire 3 parce qu'une fois que tu as transpercé, après il n'y a plus vraiment de différence. Après c'est des nuances. D'accord? Non, trois fois le nombre, ça veut dire trois fois le nombre de dommages qu'on a fait. La reine, c'est pour ça. Tsarich mispar atzmot gamken gimel pavim. C'est pour ça qu'il faudrait jeûner trois fois. Bon. On est d'accord? Est-ce qu'on a compris tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici? D'accord? Donc je répète. Tu peux bien comprendre ce qu'on a expliqué, parce qu'après on va essayer d'expliquer les détails. On a trois avis, en vérité, si on calcule. Donc, imaginez-vous une personne qui a fait une avéra, l'avéra qu'on a dit, trois fois. Non, dix fois on a dit. Ouais, dix fois normalement, il doit combien de jeûnes? 840. On va expliquer. Bon. Et une marloquette. Il y a un premier avis qui dit qu'il faut apparenter ça au corban khatat. Donc puisqu'on apparente ça au corban khatat, donc 84 fois le nombre de fois qu'il a fauté. Donc s'il a fauté 10 fois,
840. On a un autre avis qui dit 84.
Il y a un deuxième avis qui dit non. Il dit c'est comme le corban hola, que le corban hola, même si on a fauté 10 avérotes, on amène seulement un seul corban hola. Donc combien de jeûnes de jeûner? 84. Troisième avis qui dit non, entre les deux. Il dit, on va dire trois fois. Pourquoi trois fois? Parce qu'on considère qu'une fois que le Zohar nous dit dans Parashat Noir, qu'une fois qu'une personne fait une avéra trois fois, ça a transpercé. Une fois que c'est transpercé, après, bon, c'est des nuances. Le plus grave, c'est le fait qu'il a transpercé. Donc, 3 fois 84 est égal à 252. Bon. Là, on aimerait, bon, là, c'est assez technique. On aimerait comprendre le fond de cette marloquette, parce que là, bon, c'est un peu...
Oui,
on a l'impression que, bon, ils ont joué avec les chiffres. D'accord?
84, 252,
on a l'impression qu'on a des gens qui étaient à la bourse, des analystes à la bourse. Un, il dit 840, l'autre, il dit 84, l'autre, il dit 252. Attends, où on va?
Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a tué trois personnes, c'est la même chose qu'il en a tué 3 millions?
Non, attends, on va voir. D'abord, c'est sûr, parce que cette avéra, c'est ta parente à tuer? C'est par rapport à ta question?
Par exemple, est-ce que ça veut dire que lorsque j'ai fait une avéra, je fais une avéra trois fois...
C'est quand on fait cette avéra, on tue des Nechamot.
Oui, ouais. C'est une chose. Ouais. Est-ce que ça veut dire que lorsque je fais une avéra trois fois, c'est la même chose que si je la fais 100 fois?
Ou tu des Nechamot
Quand on fait... C'est une Nechamot potentielle, bien sûr.
Oui, oui, d'accord, je comprends la nuance, mais Nechamot, c'est la potentialité.
Ça n'a rien à voir.
Il faut quand même deux.
Si j'ai fait l'avéra trois fois,
il y a potentialité.
Il y a qu'un moment où je l'ai fait trois fois, c'est-à-dire le mal est fait,
oui.
Et ensuite ça ne changera pas grand-chose.
Par rapport à moi.
Par rapport à toi.
Oui.
Est-ce que
ça, par rapport à mon potentiel de meurtrier, ben ça y est, ça m'a déjà transpercé.
Lorsque je tue trois personnes,
ça change pas.
Est-ce que j'en tue 300 000, est-ce que c'est pareil?
Ben, c'est la même chose après cette vie-là. Tu te dis, même c'est... Oui, oui, mais c'est 300 000. La première fois, t'as eu une trace de meurtrier. Enfin, la personne a eu une trace de meurtrier. Voilà. La deuxième fois, elle a eu un impact de meurtrier. La troisième fois, ça l'a transpercé, c'est un serial killer. Non, un serial killer, après, il peut tuer 3, 5, 10, 100 au jugement, c'est la même chose.
Au jugement, c'est la même chose.
Ben oui. C'est fini. Et
même s'il a des circonstances aggravantes,
Non, après.
Mais si on va pas s'écarter. Donc je reprends. Attendez.
C'est parce que j'ai la même sentence que je peux tuer ensuite ce que je veux.
Donc je reprends. On a ici trois avis. On aimerait comprendre, leur avis explique une sira, on aimerait comprendre c'est quoi le fond de ces trois avis. Qu'est-ce que je veux dire, bon, pourquoi un il dit que c'est autant de fois de nombre de jeunes? Bien sûr, techniquement, on a compris. Un, il fait ressembler ça à Corban Khatat, l'autre au Corban Ola, et l'autre, il dit trois fois. D'accord, mais quel est le fond de la marloquette? Écoutez bien. Lorsqu'une personne fait une avéra, il y a trois manières de voir l'avéra qu'il a fait. Un petit peu dans le style que j'en ai expliqué la semaine dernière. Une guérette à Tchouva, bon, même dans le Tani en général, il y a des commentaires extraordinaires durant ça. Lorsqu'une personne fait une avéra, il y a trois manières d'analyser l'avéra qu'il a fait. première manière d'analyser l'avéra qu'il a fait, c'est que le fait qu'il a fait une avéra, il s'est révolté contre Akadosh Baruch Hu, et donc il a enlevé de soi le joug divin. Donc par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de différence par rapport au nombre d'avérotes qu'il a fait. Puisque toute l'avérote, c'est la même chose. Même s'il a fait, il a transgressé toutes les 613 mitzvot, finalement, il y a un seul point. C'est quoi le point? C'est qu'il a enlevé de soi la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est comme une seule question, elle dit, écoute, moi je veux rien savoir. Il m'a pas écouté. Non, peu importe les détails, si ça, non, je fais ci, je fais ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Il m'a pas écouté, point à la liste. D'accord? Ça, c'est une première manière de voir l'avéra. Qui dit que c'est quoi le plus grave dans une avéra? C'est le fait que la personne a enlevé de soi la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il a fauté. Donc par rapport à ça, on comprend bien, d'accord, que même si une personne... Bon, d'abord, je vais expliquer les trois manières de voir les choses, après je vais expliquer comment ça change. Première manière de voir les choses, on a dit, c'est le fait de voir que quand une personne fait une avéra, le fait qu'il a fait une avéra, on a dit, il a enlevé de soi la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Donc même s'il a fait 10 avérot, combien de fois il a enlevé la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu? Combien de fois?
D'accord. Faute.
Non.
Une fois.
Ah non. Parce que une fois il a enlevé la souveraineté d'Akadosh. Parce que dans toute l'avéra, c'est le même problème. D'accord. Non, il a raison. Yves a raison qu'il a enlevé plusieurs fois la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est toujours le même problème. Il y a combien de problèmes ici? C'est comme ça que j'aurais dû poser la question. Combien de problèmes il y a ici? Combien de problèmes? Un seul problème. D'accord. Ça, c'est une première manière de voir les choses. Non, il a raison. Il a raison. Parce que c'est possible que la personne, entre-temps, a fait tchouva, etc. Mais ça change pas.
C'est
là ce qu'il voulait dire.
Tout à fait.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
C'est prolonger la pensée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, j'ai fait une fois, je refais tes chouva.
Voilà.
Je refais une deuxième fois.
Très bien. Mais finalement.
Chaque fois, j'ai bien enlevé. Pour faire la vera, il fallait que j'enlève la souveraineté de Dieu. Donc, je l'ai pas enlevé une fois.
Mais finalement, combien de problèmes il y a ici?
C'est-à-dire que si je l'ai enlevé.
Mais non, mais finalement. On recherche le problème.
Mais si je l'ai enlevé une seule fois, c'est-à-dire que finalement, je suis tout le temps dans la vera.
Voilà.
Donc, tant que je ne sors pas de la vera.
Non, c'est possible qu'elle ait fait chouva entre temps, ça ne nous dérange pas. Encore une fois, il y a une première manière d'analyser la vera. Non, j'avais compris sa question, c'est une très bonne question ce qu'il a posé. Je vais répéter. La première manière de voir les choses, c'est quoi? Là, il a les crédits à zéro, il faut recharger un peu. Il y a une première manière de voir les choses qui dit que c'est quoi le plus grave dans une avéra? C'est le fait que quand j'ai fait une avéra, j'ai enlevé de moi la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de différence entre le nombre d'avérotes et quelle avéra, etc. C'est la même chose. C'est vrai que c'est techniquement, c'est peut-être d'avérotes différentes, mais c'est le même problème dans toute l'avérote. Ça, c'est une première manière de voir les choses. Deuxième manière de voir les choses, qui dit que non. Qui dit que chaque mitzvah correspond à un membre spécifique de l'âme. Vous savez que de la même manière que dans le corps, il y a des membres, de la même manière dans l'âme, corps, il y a des membres. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'une personne peut avoir un problème dans un membre, d'accord, il va aller voir le rabbi, et le rabbi va dire, ah, ça veut dire qu'il faut améliorer la mezouza, il faut améliorer les téfilines, il faut améliorer dans l'accomplissement du Shabbat, il faut s'améliorer l'Avdala. C'est quel rapport à l'Avdala? Où il a trouvé l'Avdala? Parce que, de la même manière que dans le corps, il y a des membres, d'accord, de la même manière, dans la Neshama, il y a des membres. Et chaque membre correspond à une mitzvah. Donc là, c'est la deuxième manière de voir les choses. Qui dit, attends. Ah, c'est trop facile, la première méthode. Mais toi, tu dis, bon, ce qui compte, c'est qu'il n'a pas écouté. Il a enlevé la souveraineté, donc peu importe quelle avéra il a fait, c'est un seul problème. Il dit, non. Deuxième méthode, il dit, non, il n'y a pas un seul problème ici. Dans la Neshama, il y a plusieurs membres. Donc puisqu'il y a plusieurs membres, donc s'il a fait plusieurs avérantes différentes, eh ben, chaque avéra correspond à un membre différent. De la même manière que dans le corps, c'est pas parce que le pied il est malade que la main est malade. D'accord? Donc, il y a une deuxième méthode qui dit non. Il dit, c'est vrai que ça fait partie du même corps, d'accord, que dans le fond, c'est le même problème, mais quand tu rentres dans les détails, c'est deux membres différents. Donc, ça correspond à deux membres différents. Ça, c'est une deuxième manière de voir l'avéra. C'est juste des approches. Troisième manière de voir l'avéra, qui dit non. Il dit que dans un corps, c'est vrai qu'on a les membres qui sont séparés, mais on sait très bien, tous ceux qui connaissent un peu l'anatomie du corps, on sait très bien que il y a aucun membre qui est indépendant. Ça n'existe pas un membre qui est indépendant. Que quand il y a un membre qui est malade, il va entraîner d'autres avec lui, obligatoirement. D'accord? Forcément, parce que Akadosh Baruch Hu a créé le corps d'un système que tous les membres dépendent l'un de l'autre. Et donc si un membre va tomber malade, alors c'est vrai qu'au début on ne se rendra pas compte, mais forcément, ce membre, la maladie de ce membre va influencer d'autres membres. D'accord? Pardon? Bon. Forcément, ce membre va influencer d'autres membres. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? D'accord.
Oui, je comprends.
Donc pourquoi je dis ça? Alors par rapport à ça maintenant, on va comprendre. Donc je répète, trois manières d'analyser une avéra. Avec ça on va bien comprendre. Avec ça on va bien comprendre pourquoi la Gemara Zaken ici nous a mis cet exemple, d'accord? Et surtout, c'est quoi le fond des trois avis? En vérité, le fond des trois avis, c'est que c'est chacun des avis suit une de ces approches. Je répète. Première approche qui dit que quand on voit une avéra, même s'il a fait 10 000 avérotes, nous ce qui nous dérange c'est un point. C'est qu'il a enlevé la souveraineté de soi, la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la première manière de voir les choses. Deuxième manière de voir les choses, qui dit non. Il dit ce qui nous dérange dans une avéra, c'est quoi? C'est que ça correspond à un membre spécifique. Donc chaque avéra correspond à un membre spécifique. D'accord? Donc par rapport à ça, chaque membre faut réparer. Ça c'est deuxième méthode. Troisième méthode qui dit, c'est un peu entre les deux, si vous suivez. Il dit non. Il dit ça correspond à un membre spécifique, mais peut-être que ce membre, certainement que ce membre, va influencer les membres qu'il y a autour de lui. On est d'accord? Bon, maintenant je vais expliquer comment ça correspond aux trois avis. Aux trois avis qu'on a. On a le premier avis. D'accord? Le premier avis qui a dit que il suffit de jeûner une fois. D'accord? Une fois, on a dit, même si j'ai fait 10 000 fois la Vera, je vais jeûner une fois pour le nombre de jeûnes.
Voilà.
D'accord? C'est quoi le fond? Cormanola, c'est techniquement, mais c'est quoi le fond de cet avis? C'est très simple. Il dit ce qui nous dérange ici, c'est que la personne a fait. C'est le fait que la personne a enlevé de soi la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, combien de fois il a enlevé de soi la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu? Peut-être qu'il a fait plusieurs fois. Mais combien de problèmes on a ici? On a un problème. Donc puisqu'on a un problème, combien de fois 84? Une fois 84. Ça c'est le fond du premier avis. Suivez? C'est une parenthèse. Bon. Deuxième avis, qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous le deuxième avis, qu'est-ce qu'il a dit? Le deuxième avis, il a dit que... Attention, d'accord? Non. Alors je veux commencer par l'avis du milieu. Qu'est-ce qu'avait dit l'avis du milieu? L'avis du milieu avait dit que une fois, deux fois, trois fois. Parce qu'une fois, ça fait trois fois, on a transpercé. On s'occupe pas des membres qu'il y a autour. Trois fois, parce qu'une fois qu'il y avait trois fois, t'as transpercé, c'est tout. Ça correspond à quel avis? Ça correspond à l'avis qui dit que quand on fait une avéra, chaque membre correspond à une avéra. Donc il nous dit, écoute, chaque membre, il y a une avéra qui lui correspond. Donc une fois que tu l'as fait trois fois, le membre, il est transpercé. On s'occupe pas de ce qu'il y a autour. D'accord? Je répète.
Si tu l'as fait trois fois,
on va simplifier. Si, vous allez voir que ça va simplifier. Ah, c'est quatre, bien sûr, j'ai quatre. D'accord? Marqué noir sur blanc. Ouais, ici, j'ai quatre éléments. T'as un premier avis qui te dit qu'on ne va pas se prendre la tête avec les détails, toutes les façons, c'est tous des plantes. Ça veut dire qu'il y a un seul problème ici. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il a enlevé la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ni 10 fois 84, ni 3 fois 84, ni 100 fois 84, même s'il a fait des 1000 fois, il y a un problème ici. Donc combien de fois on jeûne?
Une fois.
Puisqu'il y a un seul problème, le fait qu'il a enlevé la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis qui dit, chaque avéra correspond à un membre du corps. Donc la première fois que tu as fait la avéra, t'as tracé, t'as fait une trace sur ce membre. Deuxième fois que t'as fait la avéra, t'as marqué le membre. Troisième fois que t'as fait la avéra, t'as transpercé ce membre de la Neshama. Le membre de la Neshama, il est mort. Donc après 3, 10, 50, 100 fois, il n'y a plus de différence que le membre, il est pris. Donc cet avis-là, il te dit, nous quand on voit une avéra, on voit une avéra par rapport à chaque membre spécifique. Donc une fois que t'as fait 3 fois, il n'y a plus de différence. C'est pour ça que même si t'as fait la avéra 1000 fois, combien de fois tu jeûnes? Trois fois
dans ce membre.
Voilà, parce qu'on s'occupe que de ce membre.
Ah, d'accord.
Ah, vient le troisième avis qui te dit qu'il faut jeûner pour chaque avéra que tu as fait. Pourquoi? Parce que le troisième avis, il s'occupe pas seulement de ce membre. Il s'occupe aussi également des dommages collatéraux. Et ça, les dommages collatéraux, plus tu en rajoutes, et plus il y aura des dommages collatéraux autour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr.
Je vois pas en quoi ça aide les trucs.
Parce que, tu vois là, soit 1, soit 3, soit 4. D'accord?
1-3-N. Voilà.
Le troisième avis, il te dit, ça marche pas comme ça. Il te dit, tu peux pas dire chaque membre séparément. Non, ça marche pas comme ça. Puisque c'est vrai que le membre, au bout de trois fois, tu l'as transpercé. Tu es d'accord avec ça? Le membre, au bout de trois fois, il est mort. Là, tu peux le mettre à la casse. D'accord? Mais il y a les membres autour. Et plus tu imbibes celui-là, et plus ça partira à côté. Donc, s'il a fait 1000 fois la verra, et ben, c'est parti jusqu'à très loin. Donc, il faut réparer ce qui est autour. Donc, ça expliquerait ce troisième avis qui te dit qu'il faut jeûner autant de fois. D'accord? Autant de fois que...
Et c'est quoi l'avis qu'on retient?
L'avis qu'on retient, c'est l'avis du milieu. Qui dit qu'on s'occupe membre par membre. Donc 3 fois. 3 fois 80. Ça, c'est l'avis qu'on retient. Alors. Donc maintenant, on continue. Achen, cependant, kolze, ba'adam, chazak, ou bari. Vous savez? Allez, messieurs. Bon, on referme la parenthèse des détails. Quoi qu'il en soit, donc, c'est quoi la halakha? Combien de fois 84?
3.
3 fois 84. On est d'accord? Très bien. Ahel, maintenant.
Pardon, excuse-moi, je sais pas si tu l'as expliqué, mais tu as dit qu'il y avait une importance à 10 ou 20.
Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Bon, comme j'ai vu qu'il y en a qui...
C'est vrai que tu t'étends là-dessus, mais...
Non, c'est juste pour vous expliquer. D'accord. Explique comme ça. Bon, j'explique en deux mots, mais je ne vais pas m'arrêter. C'est une parenthèse. Si ceux qui ne comprennent pas ça, c'est pas grave. D'accord, j'explique en deux mots. Il a choisi la raison pour laquelle l'Admor HaZaken a choisi cet avéra. D'accord. Pourquoi l'Admor HaZaken a choisi cet avéra? Parce que il a choisi cet avéra, l'avéra de Zera Levatala. Puisque dans cet avéra de Zera Levatala, on voit clairement que c'est quoi la gravité de l'avéra? La gravité de l'avéra, c'est que dans la semence se trouve en potentiel déjà l'enfant qui va naître. Donc ça correspond au premier avis. Premier avis qui disait que ce qui compte, c'est qu'il a fait une avéra. Ce qui compte, je veux dire, c'est que le fait qu'il a enlevé sur soi la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Après, peu importe les détails, tout le reste, c'est les détails. D'accord? Ensuite, pourquoi il a dit 10 et 20? Très simple. Parce que 10, quand, c'est la valeur numérique de Yud. Yud, c'est quoi? Yud, c'est un point. D'accord? Yud, c'est un point. Yud, c'est un point. Ça veut dire, c'est comme la forme. Bon, c'est le père du rabbi qui explique ça. C'est comme la forme, donc, comme la forme d'une goutte. Alors que 20, écoute bien ce que c'est 20. Oui. 20, c'est quand tu prends le mot Yud et tu le décomposes. C'est-à-dire, tu prends le mot Yud et tu l'écris en toutes lettres.
Oui.
Donc, c'est Yud, Vav, Dalet. Yud, 10, Vav, 6, Dalet, 4. Ça fait combien?
20.
D'accord? Ça veut dire que ça correspond, Estrim, ça correspond à quand tu prends pas seulement la lettre, tu prends la lettre telle qu'elle va se répandre autour. D'accord? Voilà. Bon, je vais pas moi.
C'est fort.
Ah, c'est très, très précis, hein, ce que dit l'Admor HaZaken. Achen, cependant, Colts et tout ça. Alors, on continue la suite.
Mm-hmm.
Je suis à la page 184, en haut de la page. 184, en haut de la page, 6e ligne. Achen, cependant, Colze ou Beadam, Colze, Beadam, Chazak ou Bari. Tout ça, c'est uniquement pour une personne qui est fort et qui est en bonne santé. C'est-à-dire que là, l'Admor HaZaken, pour lui, c'est évident que le gars, il faute pas beaucoup, que le seul problème, c'est est-ce qu'il va réussir à jeûner. D'accord? Là, nous, on réfléchit, est-ce que j'ai assez jusqu'à ma mort? D'accord? Non, c'est pas comme ça qu'il réfléchit. Vous savez, chez Ashkenazim, chez Chabad aussi, on porte le kittel. Aujourd'hui, même qui pourrait. On dit que le kittel, c'est le vêtement avec lequel on est enterré.
Ça réfléchit. C'est vraiment le même.
Ah oui, le même. Le kittel, c'est le vêtement.
T'as des joints de garde pour ça?
On est enterré, le vêtement blanc, là. Ça s'appelle le kittel.
Ah, c'est avec ce à quoi il fait
de Kippour?
C'est avec ça qu'on est enterré. On dit qu'on est enterré avec le, on dit que le talit qu'on a utilisé, il est utilisé pour le linceul, enfin bon.
Oui.
D'accord? Et on est entouré avec le kittel en blanc. D'accord? Donc ça fait réfléchir quand on est même Kippour avec les vêtements avec lesquels on va être enterré. Bon, ma chère serait bien là, mais.
Tu l'as même. Ah, oui, c'est fait,
ça. Oui, oui.
Non, moi je disais, si on dirait un prof de judo à ton père hier.
Non, enfin, c'est inspire. Oui, c'est une question du blanc, mais ça inspire la crainte quand même. Quand tu dis je vais être enterré avec ça.
Non, mais pas avec ce talit là, tu peux avec un talit que tu reporteras peut-être plus tard. Là, c'est vraiment avec celui-là.
Oui, c'est un vêtement qu'on porte une fois par an.
Celui-là.
Quoi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le khatan, je nomme Nakrabad, le khatan, puisqu'on le porte en dessous de la choupa. En dessous de la choupa, on porte le kittel.
Ah, déjà, c'est toujours le même.
Oui. Non, on porte le kittel. Donc c'est pour ça que le khatan, la première année après son mariage, il porte pas le kittel à Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de le porter qu'une fois par an. Juste pour vous expliquer le... Voilà, donc c'est pour expliquer l'importance. Une fois par an, on a le droit de le porter, c'est tout.
Il pourrait le porter le premier.
Donc puisqu'il a déjà porté le jour de son mariage, donc...
Ah,
d'accord. Alors,
quoi, le kittel, il porte le jour de mariage aussi? J'ai pas écouté le jour de mariage, c'est le kittel aussi?
Oui.
Le même?
Oui.
Et allez, tu mets dans le jour de mariage, tu flippes un peu alors?
Non, c'est de
l'enterrement.
Ah, c'est un peu la mort aussi, faut dire.
Enterrement du garçon.
Très bien vu.
Achen, cependant, Kolze, Badam, Chazak, Koubari. Tout ça, ça concerne uniquement une personne qui est fort et qui est en bonne santé. C'est-à-dire que là, le problème qu'elle a de Mourazakem, c'est est-ce qu'il va réussir à jeûner tout ça? C'est-à-dire, c'est évident qu'il a le temps. Que bon, il a pas fauté tellement. Que bon, il en a pour quelques centaines de jeunes, mais c'est pas le bout du monde. Donc bon, pas de problème. Il est fort, il est en bonne santé. Mais tout ça, ça concerne celui qui est fort et qui est en bonne santé. Sh'en ribou yatsumot, maziklo kla livrou d'goufo. Que le fait de jeûner beaucoup ne va pas du tout affecter sa santé. Comment c'est possible si jeune ça va affecter sa santé? Il dit c'est très simple, il dit Ukmo Betorot Arishonim. Comme dans les premières générations. C'est-à-dire dans les générations d'avant, il y avait des gens qui pouvaient vous jeûner des jours et des jours d'affilée, bien sûr, ils mangeaient le soir. D'accord ? Ça n'affectait pas leur santé. Ils avaient un corps qui était très fort. On est d'accord ? Donc des gens comme ça, on peut leur dire, bon, on peut leur dire des 151, bon, ils peuvent, d'accord ? Ça leur fait pas peur. Ils ont un con, ils ont un calepin, ils notent, ils jeûnent, etc. Il n'y a pas de problème.
Et dans noir, dans
mais aval, mais... Mais chéribou yatsomat maziklo. Celui que, le fait de jeûner beaucoup, maziklo, ça lui fait du mal. Chez Efchar, chez Yuchal, la vol idecholi ou mechouch kazé shalom. Que bon, jeûner un jour, il peut. Mais s'il va se mettre à jeûner des jours, de plusieurs jours d'affilée, il va se sentir mal. Or, quand on se sent mal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on se sent mal? On va pas étudier, on va pas étudier, on va pas prier. Kemo betorotenu elé. Comme dans notre génération, comme dans nos générations, déjà à l'époque de Mourazakan, qu'il y a déjà une faiblesse qui est venue dans le monde, une personne ne peut pas jeûner 100 jeûnes d'affilée, c'est pas possible. D'accord ?
Ouais, 151 jeûnes, mais ça tu dis, le bon. Type il va jeûner 151 jours pour peu qu'à la fin il fait encore une avéra, et là il repartit pour
ça. À l'époque du Arizal, c'était qu'un classique. C'est juste qu'on faisait. D'accord.
Oui. J'ai peine à croire que tu me dis,
sûr.
Je veux bien croire, mais...
Les gens à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens à l'époque avaient une durée de vie moins longue que la nôtre, parce que bon, ils n'avaient pas tous les antibiotiques qu'on a aujourd'hui, etc. Non, pas du tout, mais leur corps était beaucoup plus fort que le nôtre. C'était beaucoup plus résistant, rien à voir. On le voit. Et on voit que plus on avance dans les générations, et plus les corps sont faibles. On le voit clairement.
Ils font moins d'efforts. Ils font moins d'efforts.
Bien sûr. Alors, donc dans ce cas-là, déjà à l'époque de Mourazaken, les gens étaient déjà faibles, donc on peut pas leur demander de jeûner comme ça. Alors est-ce qu'on a le droit de jeûner dans ce cas-là? D'abord, est-ce qu'on peut nous demander de jeûner? Alors, là, Mourazaken, une personne comme ça, comme nous aujourd'hui, non seulement qu'on ne peut pas lui demander de jeûner, mais il n'a pas le droit de jeûner. Vous suivez? Non seulement qu'on ne peut pas, c'est-à-dire non seulement qu'on lui impose pas, mais assur l'eau les harbot betaniot. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire plus de jeûnes que ce qu'on lui demande. Ça veut dire que bon, le jeûne du Kippour, Tchabéav, etc.
Les musulmans, ils peuvent, pourquoi ça on ne peut pas?
À Filou, à Kritot, ou Mitot, mais
c'est pas des jeunes qui font.
Dépend. Ça dépend si... Bah, attends, on va mettre en
c'est pas des jeunes qui font.
Si, c'est exactement ça.
Il dit...
C'est dur, mais...
Ce sera mis sur Facebook.
Non, ça a été coupé, t'inquiète pas.
Il a coupé.
Dis. Alors. À fil ou à critote ou méthode bedine. Même si c'est une avéra très grave, ils disent bon, là c'est vraiment une avéra qui est très grave, quoi. Je veux jeûner. Je veux payer. Non seulement qu'on ne lui impose pas, mais à sur l'eau, il n'a pas le droit, c'est à sourd. Ou Mikol Sheken. Ça veut dire, déjà sur des avérotes graves, c'est interdit. À plus forte raison, sur des avérotes qui sont moins graves, comme on l'a dit, les avérotes sur lesquelles il n'y a pas chayav karet. C'est assourd. Et là, seulement, kefi asher yeshaer benafsho, chez bevadaï lo yazik loklal. Une personne a le droit de jeûner, seulement sur ce qui peut s'assurer que c'est sûr que ça ne lui fera zéro dommage. Ça ne lui fera rien à son corps. C'est-à-dire que bon, bien sûr, ça sera un effort. Mais que ça ne va pas abîmer son corps. Qui a filou bedorot arishonim, car même dans les premières générations, ça veut dire à l'époque où on pouvait jeûner, bimet anaim vamoraim, à l'époque des maîtres de la Mishnah et de la Gemara, lo ayu mit anim bekai gavna, ils jeûnaient dans des cas comme ça, et là, abriim, seulement les gens qui étaient en bonne santé, des matsu litsaore nafshayu, des gens qui pouvaient se faire souffrir. C'est-à-dire des gens qui physiquement résister.
Excuse-moi, il faisait pas 84, t'as dit, c'est le Arizal.
Oui.
Donc c'est ces gens-là, des Tanaïm qui étaient avant le Arizal, rien ne nous pensait qu'ils faisaient 84.
Si, on a dit par exemple, on a dit la semaine dernière, on a dit qu'il y en a un qu'il a jeûné jusqu'à que c'est nous cédant en noir 6.
Mais c'est pas le chiffre 84 qui amène le Arizal.
Encore plus que 84, pour qu'il y ait dans le noir 6. Combien il faut pour qu'il y ait dans le noir 6?
Ah, c'est une carence.
C'est énorme, c'est des années qu'il faut pour qu'il y ait dans le noir
6. Oui, mais pour une avéra.
Oh, pour que dans Nord 6,
tu ramènes le Rav que tu avais donné son nom, mais je pense qu'à cette époque, ils n'étaient pas tous aussi. Si on ramène d'ailleurs son cas, c'est qu'ils n'étaient pas tous dans ce
non,
cas-là.
Non, ça veut dire que lui, c'était extrême, c'est à l'extrême, mais les gens, ils jeûnaient énormément. Ils jeûnaient beaucoup. Il y a des gens à l'époque qui jeûnaient sans problème. Alors il te dit, même à l'époque, la Gemara, même à l'époque, et de toute façon, la Gemara en parle. D'accord.
Il n'y a pas de quoi bouffer, ouais, effectivement.
Ou de l'eau, massive, et ça aurait un objet. On se dit, des fois, c'est pas tellement difficile. Ça arrive des journées où on mange rien. Jusqu'au soir, tu manges un croissant, un truc comme ça, et jusqu'au soir, tu vas rien manger, donc c'est pas... Ça arrive, non,
non. Oui, ça, si, ça arrive.
Bon, soit t'es repas,
non, pas tout de suite, t'as pas le temps à t'occuper.
Bon, je prends un café le matin, et du coup, le midi, j'ai pas le temps de bouffer, et jusqu'au soir, je tiens avec un café le matin.
T'as pas le temps, t'es pris... Mais bon, tu le fais. Bon. Oudlo Matsi le Tsaore Napshayu Mitane, nous dit l'Agmara. Nous dit celui qui ne peut pas fauter. Celui, pardon, excusez-moi, qui ne peut pas. Qui n'a pas la possibilité de se faire souffrir. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité. Techniquement, il ne tient pas. Ou Mitane, et qui jeûne quand même. Non seulement que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais Nikra Khoté. Et il est appelé fauté, khoté, ça veut dire une personne qui a fauté, un fauteur. Et ça veut dire que quand il arrivera dans le ciel, on lui reprochera toute l'étude de la Torah et toutes les mitzvot qu'il a manqué à cause qu'il était fatigué. Du style, le gars il a jeûné. D'accord?
Il doit rejeûner.
Ouais. C'est pas ça, il va arriver en haut, le gars il a jeûné, tu vois, mais à 2 heures il est out, bon, il est capoute, d'accord? Il s'endort, il va dormir 4 heures. Maintenant, s'il avait mangé, il aurait pu pendant ces 4 heures-là être productif. Et ben on va lui reprocher ces 4 heures que le fait qu'il n'était pas productif.
Et qu'il a fait pour se faire pardonner ça.
Il a plus roté. Quoi?
S'il avait pas la
chance. Il change pas. T'as pas le droit,
ça tourne. Si on lui reproche ça, il doit être une faute.
C'est valable pour tous les jeunes.
Ça change pas. Il a pas le droit. On n'a pas le droit de jeûner quand le corps ne tient pas. C'est sourd. Voilà, c'est un principe clair.
Pour les jeunes autorisés, c'est.
Non. Ça, sauf les jeunes qui ont été imposés par la famille.
Les jeunes imposés, pas les jeunes autorisés.
D'accord.
Les jeunes imposés, pas les jeunes.
Interdit les jeunes.
Pareil.
Autorisés.
S'il peut jeter.
Non, on rejette finalement.
Les jeunes autorisés.
Les jeunes pas.
Les 4 jeunes en question, ils sont jugés aussi si tu es en bonne santé. Tu as.
Moi je sais par exemple les jeunes, bon ça ne fait pas grand chose, mais on tient quoi. Je connais des gens qui tiennent pas du tout.
Moi ça ne fait rien.
C'est horrible pour eux de jeûner.
Il y avait une femme ici à Kippour, elle est tombée très grave dans les pommes, elle était en
état de tout. Ils ont donné à boire. Ah je sais pas.
Elle m'a dit, elle a fait appeler quelqu'un pour me dire, moi je sais pas dans quel état elle était. Pour savoir si elle avait un médecin dans la salle, et du coup j'ai dit, moi je sais pas, on était en plein machin. Et c'est après que j'ai su que la fille était bloquée comme ça en tétanie, donc c'est machin, elle était pas bien du tout. Et ils ont pas trouvé le médecin. Elle lui a donné un petit.
Ils ont pas trop
un petit sucre, elle lui a donné. Ils ont pas trouvé le médecin, ils lui ont demandé s'il y avait des médecins, mais les femmes, c'était du côté des femmes qui se passait.
Matin, il y a une dame qui est rentrée ici, qui se sentit mal. Matin, là, une parente d'élève. Bon, comme au minimum du matin, il y a des. Et des cardiologues, des pharmaciens, des docteurs, et tout ce que tu veux. Ils étaient à 5 pour elle. C'est bien du matin, là. Ils étaient tous. T'étais pas là ce matin? Ah oui.
À quelle heure? Parce que moi j'étais là ce matin.
Ce matin, non, t'es pas rentré au cours. À 9h10. Il y a une dame qui est rentrée.
Au cours, d'accord.
Ils étaient tous, là. Il y avait un cardiologue, un pharmacien, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait encore un neurologue, enfin ils étaient tous...
Un neurologue.
Il y en a un, il a dit, moi je suis opticien, je peux servir à quelque chose.
Oui,
une parente d'élève, je sentis mal. Après les pompiers sont venus, bon. Au prochain, ça c'est les gens.
Comme quoi, avec tout ça, il y a les pompiers qui viennent. Et regarde, un tableau de... Comme quoi...
Parce qu'ils étaient en mahlouk.
Qui dit...
Il a pas cherché qui est, il y a un peu de pompiers. C'est une faille ou pas?
Bah, filou mit ané à la verroche, c'est bien d'aller, mais c'est venu comme ça, on finit. Finis un petit peu. Bah, filou mit ané à la verroche,
c'est
bien d'eau.
C'est pas malade.
Bien sûr, ce qu'il voulait, c'était un pâtissier.
Et même si... Non, elle n'a pas pris ses médicaments. Va filou mit ané à la verroche, c'est bien d'eau. Même s'il jeûne pour des verroches qu'il a fait, que le pirage rachet, comme Rachet a expliqué. Rachid avait expliqué que même si la personne jeûne parce qu'il a fait d'avérante, mais en jeûnant, il s'est affaibli, non seulement que ce qu'il a fait, ça sert à rien, mais c'est au contraire, roté, il est appelé un fauteur. C'est à source qu'il a fait. Deita bigmara perekama desvachim, she'en lecha adam Israël, she'enu mechouya vase vechoule. Bigmara dit là-bas qu'il n'y a pas une personne du peuple juif qui n'a pas au moins transgressé au moins une mitzvah, une mitzvah positive. C'est impossible. D'accord. Et pourtant, on voit pas des gens jeûner tous les jours. Pourquoi? C'est très simple. Parce que les gens ne tiennent pas. C'est évident. D'accord. Alors, explique le Morazaken, il dit Umikol Sheken Mishu Baal Torah. À plus forte raison. Là, déjà, on parle de quelqu'un qui est dans les affaires. Que bon, le fait de jeûner, ça veut juste affaiblir son corps, mais que bon, finalement, qu'est-ce qu'il aurait fait quand il serait réveillé? Il aurait travaillé. C'est la question de.
Mais ça, c'est pas son prénom.
Joseph. D'accord.
Joseph.
Ah, tu dis à plus forte raison. À plus forte raison, si dans le moment de productivité, il aurait étudié la Torah. Que là, Shechoté, Veonesh, Bechiflaim, que là, la punition sera double. Qui mechamat, Khalishu, Tataanit, Lo Yuchal, la Sokva, Karaoui. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand, à cause de la faiblesse du jeûne, il pourra pas étudier la Torah comme il faut. D'accord? Donc, à plus forte raison, que son jeûne ne vaut rien. D'accord, son jeûne ne vaut rien, là-bas, la Gemara Talmid a dit des mots très très durs. D'accord? Elle dit des mots très très durs. Elle dit là-bas, la chose suivante, il y a un proverbe en araméen, elle dit, l'ichol kalba shirouté, ça veut dire, c'est comme si le chien a mangé son repas. Bon, c'est une expression en araméen qui veut dire, d'accord?
C'est silencieux, là, c'est un truc sur le côté.
Comme c'est un petit bouton sur le côté.
C'est un truc que je comprends pas, Mandy. C'est-à-dire que là, ils disent que c'est valable pour un homme fort et en bonne santé.
Ah, justement.
Pour la plupart, on est fort et en bonne santé si on n'est pas malade.
Si?
Si on n'est pas malade.
On est fort en bonne santé parce qu'on mange tous les jours.
Oui, donc, de pas manger une fois.
Mais là, c'est pas une fois, là, c'est...
Ouais, c'est de suite qu'ils demandent de le faire.
Là, une personne, il s'est énervé, c'est 151. Il s'est énervé 10 fois, 151 fois 3. Bah, toute l'année, il va jeûner.
Eh bien sûr, c'est de suite, c'est pas 151. Tu as fait aujourd'hui, et dans 3 jours, 4 jours.
Ouais.
C'est 151.
Tu fais 3-4 jours de suite, mais attends, ça va vite.
Ah, de suite, tu parles.
Bien sûr,
de suite.
En coupant le soir.
Non, ils te font pas crédit.
D'accord.
Ah non, tu crois que c'est, franchement, on fait 151 dans l'année.
Nous, on croit que c'est facile, parce qu'on fait une fois par 2-3 mois. Mais tous les jours, tu manges pas.
Ah, c'est... Ah non, on continue.
D'accord.
5 mois.
Bon. Là, maintenant, le rabbi pose la question suivante. Le rabbi pose la question suivante. D'accord. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, messieurs, je voudrais finir sur ce point-là.
Quoi, pas de suite, parce que le Shabbat, on gêne pas.
Alors, justement. D'accord, mais c'est pratiquement suivi. Alors, je voudrais finir avec ce point-là dans les 5 minutes qui nous restent. Allez, messieurs. C'est un point que le rabbi explique dans la Sicha. La Sicha, là-bas. Il dit, finalement, si on analyse ce que l'Admor HaZaken a dit ici. Normalement, une personne qui a fait 10 fois une Avera, on a dit, il doit jeûner combien de fois? 3 fois pour le nombre de fois que l'Arizal a dit. Donc, par exemple, pour l'Avera qu'on a dit, 3 fois 84, ça fait 252. Très bien. Maintenant, on a dit que le droit de jeûner, c'est uniquement si on est en bonne santé. Donc, 250, sinon, interdit. C'est ce qu'on vient de dire, non?
Oui. Bon, c'est pas en bonne santé, là.
D'accord, donc c'est évident que nous, on n'a pas cette santé-là. Ça, c'est évident.
Donc
puisqu'on n'a pas cette santé-là, donc on n'a pas accès à cette teshuva.
Ah,
bah oui.
Donc comment on
fait? Alors, si on n'a pas accès à cette teshuva, ça veut dire qu'on est des losers.
Non, de qui parle? Les hommes forts et en bonne santé.
Attendez,
on reste avec la teshuva pour l'instant.
Le rabbi pose la question suivante. Il dit, dans ce cas-là, la question qu'on a se poser, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait les choses d'une telle manière que notre génération, que le corps d'un homme, que le corps aujourd'hui est faible, et qu'une personne, même s'il veut... Il veut s'améliorer, il peut pas dire, ah non, monsieur, t'as pas accès, et même si tu essayes, attention, tu fais une avéra. Donc il peut pas. Donc ça voudrait dire deux secondes, ça voudrait dire qu'on n'a pas accès à cette teshuva. C'est-à-dire qu'une personne, il veut faire teshuva, il veut se nettoyer, tu dis non, je le restreins, il n'a pas le droit. D'accord? C'est évident, je finis la question après, c'est évident que le fait que le monde a changé, que le fait que les générations se sont affaiblies, c'est évident que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est évident que tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, il le fait Bashgacha Pratit avec, c'est évident qu'il y a une providence divine, et que c'est calculé par Kadosh Baruch Hu. Or, on sait que le monde a été créé pour deux choses, pour Israël et pour la Torah. Donc tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour ça. Alors, si Kadosh Baruch Hu a amené une faiblesse dans le monde, bah forcément que ça doit être en symbiose avec la Torah. Or là, la faiblesse qui est venue dans le monde ne va pas en symbiose avec la Torah. Puisqu'elle m'empêche, elle empêche une personne qui veut suivre la Torah de faire teshuva comme il faut. Donc, il y a un problème dans le système. Comment c'est possible que le monde nous empêche, puisque le monde a été créé pour Torah et pour Israël, ben là, j'ai un Israël qui veut accomplir la Torah, et il n'arrive pas.
Comment c'est possible?
D'accord? Comment c'est possible? Il y a un problème dans le système.
Bien sûr.
D'accord? Le monde a été créé pour ça.
Il y a un bug.
S'il a été créé pour ça, il y a un bug. D'accord? Il y a un bug, il y a un problème. Bon.
C'est le corps.
Mais d'accord? Comment c'est possible? Une question du même style, avant d'arriver à la réponse. Tu veux poser une question d'abord?
Ouais, non, t'as dit si on peut tenir, on peut jeûner.
Oui, mais il faut être attention, nous on ouais, croit qu'on... Mort.
C'est impossible. 52 jours de
suite. Non, mais est-ce qu'on n'a pas dit suite de suite?
C'est quoi de suite?
Bah, tu peux les faire en plusieurs fois.
Mais... Oui, en plusieurs fois, mais en plusieurs fois, on fait d'avérante tous les jours. Attends, j'ai pas fini. Deuxième question. D'accord. En vérité, cette question ressemble à une autre question qu'on pose. Vous savez que normalement, Rosh Hashanah, qui tombe Shabbat, on l'a expliqué plusieurs fois, une mitzvah positive repousse toujours une mitzvah négative. C'est vrai que Shabbat, on n'a pas le droit de sonner dans un instrument de musique, mais Rosh Hashanah, il y a une mitzvah de sonner du shofar, donc normalement, Rosh Hashanah, on devrait sonner du shofar même si c'est tombe Shabbat. Sauf que, les chachamim ont fait une gzera. Je dis, de peur que celui qui ne sait pas sonner, il va le porter, il va venir au chacham. Alors attends, deux secondes, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, à cause du fait que certaines personnes risquent de se tromper, tout le peuple juif, dorénavant, est loser.
Il y a plein de trucs. De...
Non, des choses très spécifiques. Le loulav aussi, c'est la même chose. Attendez. Messieurs, comme ça, on ne perd pas la suite. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà la même chose, Soukhot. Vous avez un Soukhot qui tombe, un jour de Soukhot qui tombe pendant Shabbat. Ah, fais pas le loulav. En vérité, il y a la mitzvah, on devrait le faire. Minatora, il y a la mitzvah. Pourquoi tu fais pas ? Parce que de peur qu'on va se tromper. Alors on est des losers. C'est-à-dire que techniquement, on devrait le faire, mais Dieu a créé le monde d'une manière qu'il y a des gens qui sont ignorants, qui risquent de devoir aller chez le Chacham, donc du coup, les Chachamim ont été obligés de bloquer. Mais c'est Dieu qui a créé l'ignorance. Donc ça veut dire que Dieu a créé quelque chose dans le monde qui nous empêche d'accomplir une mitzvah comme on veut. C'est pas possible, puisque le monde a été créé pour Israël et pour la Torah, il est conçu pour ça. Donc quand tu as un juif qui veut accomplir la Torah, c'est les deux en même temps, Israël, la Torah. Comment c'est possible qu'un juif qui veut accomplir la Torah, un juif qui veut jeûner, un juif qui veut se nettoyer, on dit « Ah, on ne peut pas. » Un juif qui veut se nettoyer du chauffeur, on dit « Ah, on ne peut pas. » C'est un problème. D'accord ?
Mais bon, pour Shabbat,
ça veut encore une fois, je répète ma question. La question n'est pas comment techniquement les Chachamim ont pu trouver, comment les Chachamim techniquement ont pu faire ça. Parce que techniquement, les Chachamim ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a une des 613 mitzvot de la Torah qui dit que les Chachamim ont le droit même d'annuler une mitzvot de la Torah s'il faut. Donc techniquement, juridiquement, ils ont le droit de le faire. La question n'est pas technique ici. C'est une question qui est plutôt idéologique. Comment Akadosh Baruch Hu a pu faire le monde d'une manière que le monde empêche quelqu'un de faire une mitzvah ? Est-ce que vous comprenez la question ?
Oui.
D'accord. Donc, c'est expliqué en chassidoute. C'est pour ça que c'est expliqué en chassidoute. C'est expliqué en chassidoute que quand on a un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, c'est pas que les Chachamim ils sont venus nous dire qu'on n'a pas le droit de sonner du shofar. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Il faut voir la chose que quand les Chachamim ils nous disent que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat on ne sonne pas du shofar, ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver un passe-droit que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat on n'a pas besoin de sonner du shofar. Que les Chachamim ils ont réussi à faire que quand ça tombe Shabbat, on va faire que ce qui devait être fait par le shofar, on va le faire d'une autre manière, par le Shabbat même. De la même manière, que Shabbat, la Torah nous dit Shabbat, on appelle les Tfilines. Pourquoi on appelle les Tfilines ? Parce qu'on dit ce qui devait être fait par les Tfilines est déjà fait par Shabbat. Donc il faut dire que lorsque les Chachamim font une Gzera, mis à part l'aspect technique de la Gzera, les Chachamim s'arrangent aussi pour que ce qui devait être fait par la Mitzvah soit fait sans la Mitzvah.
C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une bonne D'accord excuse ?
C'est pas une bonne excuse. Non, non, non. C'est que les Chachamim nous donnent une raison officielle. D'accord ? Alors de la même manière, explique le Rabbi. Même manière. Il faut expliquer que... Attention, je n'ai pas fini. De la même manière, explique le Rabbi. Il faut expliquer que, par rapport à la Tmoura Zaken, qui est dans nos générations, messieurs, dans nos générations qu'on ne peut plus jeûner comme avant. D'accord ? Le pshat n'est pas qu'on est des losers et qu'on ne peut plus jeûner comme avant, alors qu'il veut se nettoyer, il ne peut pas le faire. Puisque c'est Dieu qui a rendu le monde comme ça. Donc si Akadosh Baruch Hu a fait que... le monde est comme ça, ben ça veut dire qu'on est obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'un juif il fera ce qu'il peut, et Dieu complétera. Et plus, et moins il pourra jeûner, et plus Dieu il devra compléter.
C'est bien.
D'accord ?
Et toi, le signe de...
Par la suite. Ça finit bien. D'accord ? Attention. Par la suite, on parlera de la tzedaka. D'accord ? Bon, alors la tzedaka, parce que la tzedaka c'est compliqué, parce que pour la tzedaka, quand on donne la tzedaka à la place des jeunes, d'accord ? Ça, selon tous les avis, c'est pas ni une fois, ni trois fois, mais c'est autant de fois qu'on a fauté pour la tzedaka.
Ça coûte très cher.
Ça coûte très très cher pour la tzedaka. Personne n'a cet argent-là. Ça, le Rabbi l'avait posé cette question dans un Farbringen.
Farbringen,
il y a, en Tafshin la Medbet. Tafshin la Medbet, ça veut dire il y a... Tafshin la Medbet, ça veut dire il y a... 39 ans. Le Rabbi avait posé la question dans un Farbringen, il a dit, c'est évident que si aujourd'hui les gens devraient jeûner tous les jeunes, enfin, je veux dire, on devrait donner tout la tzedaka pour la vérote qu'ils ont fait, même si on rachète avec la tzedaka, personne n'a l'argent pour ça. D'accord ? Or, c'est obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu a pensé à notre génération. Il a pensé à notre génération que les gens, ils voudront se nettoyer, mais ils peuvent pas, c'est impossible. D'accord ?
Alors
le Rabbi avait expliqué, il a dit qu'on est obligé de dire que bon, bien sûr que nous, on doit donner un maximum de tzedaka comme on peut, mais que la seule chose qu'il nous demande à Akadosh Baruch Hu, c'est au moins étudier les lois de la Teshuva. Et le Rabbi l'avait dit là-bas, au moins étudier Igeret Teshuva. Mais quand on étudie Guéret à Tchouva, d'accord ? Attention, on est... D'accord ? Il faut d'abord donner un maximum de tzedaka. Je veux pas ramasser de l'argent, hein, mais...
Ça, c'est fait, ça.
C'est quoi un maximum de tzedaka ?
On verra après.
C'est suffisamment pour que ça ne fasse mal ?
Celui qui fait ramasser la tzedaka, c'est encore
mieux.
Il y a une correspondance.
Celui qui donne, quand il donne, ça lui fait mal.
Ça lui fait mal, ouais. Mais bon, ça, on verra après. D'accord. Mais là, pour l'instant, donc, si je peux résumer en un mot ce qu'on a expliqué aujourd'hui, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est quoi? D'accord. Bon, messieurs. Allez, messieurs, comme ça, on conclut. C'est bien. Bah, au prochain, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions. Alors, si je peux résumer en deux mots ce qu'on a expliqué aujourd'hui, on a amené trois avis. Si une personne a fauté, la même verra plusieurs fois. Un avis qui dit qu'on jeûne une fois le nombre de jeûnes qui correspond. D'accord, donc 84. Pour la verra qu'on a dit. Deuxième avis qui dit qu'on jeûne trois fois le nombre de jeûnes. Parce qu'une fois qu'on a fait trois fois la verra, ça a transpercé.
C'est le troisième avis.
Troisième avis qui a dit que c'est autant de fois qu'on a fauté, et ben autant de fois il faut jeûner. D'accord. Donc, par exemple, si elle fauté 10 fois, ben, c'est 840 jeûnes pour cette avéra qu'on a dit. On a expliqué comment ces trois avis correspondent à trois manières de voir une avéra. D'un côté, on peut voir l'avéra comme un seul problème, le fait qu'il a enlevé sur le joug d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on peut voir l'avéra sur le plan de chaque membre séparé. C'est-à-dire qu'une fois que tu as transpercé le membre, ben, c'est fini. Donc, c'est pour ça que, par rapport à ça, c'est trois fois. Et un troisième avis qui dirait que non. Plus tu fais l'avéra et plus elle se répand. D'accord. Plus elle se répand dans les, sur les membres qui est autour. Donc par rapport à ça, il faudra jeûner donc autant de fois qu'on a fauté. La halakha est que combien de fois on a jeûné?
Trois fois.
Trois fois le nombre de jeûnes qui correspondent à la vera qu'on a fait. Même si on a fait 100 fois la vera. Sauf que aujourd'hui, ça c'est uniquement ceux qui pouvaient jeûner. Mais ceux qui peuvent pas jeûner, non seulement qui ne doivent pas jeûner,
mais ils sont interdits.
Mais n'ont pas le droit de jeûner. Et encore plus si à cause du fait qu'ils ont jeûné,
ils ne peuvent pas étudier,
ils seront punis doublement pour ça. Tout d'abord pour le temps perdu, et en plus pour le fait qu'ils n'ont pas étudié. Pour le fait qu'ils ont perdu ce temps-là, qu'ils auraient pu être productifs. Ça. Alors comment on fait? Donc là pour l'instant, à l'époque de Morazaken, il disait qu'il faut essayer de jeûner au moins une fois. Bon, ça on verra après, on expliquera après. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on est...
Une fois
84, mais bon, ça on expliquera après. Mais quoi qu'il en soit, là de Morazaken... Le point qu'on a expliqué, la sikha du rabbi, on a expliqué, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut plus jeûner. On a expliqué que si Akadosh Baruch Hu a fait les choses d'une manière que le monde ne nous permet plus, que la nature du monde ne nous permet plus de jeûner, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est arrangé pour qu'il y ait des choses qui sont toutes seules. Et c'est un grand, grand plus que je dis aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on voit comment les gens, quand ils étaient teshuvah, leur teshuvah durait des années et des années. Aujourd'hui, on se demande comment ma chère va venir. C'est vrai qu'on fait teshuvah, mais attends, On est loin de la teshuvah que les gens faisaient à l'époque. Or, avec ce biour du rabbi, avec ce que le rabbi a expliqué, qu'en vérité, si on peut pas le faire, c'est-à-dire que Dieu le fait à notre place, que les choses se font à notre place, ça explique beaucoup de choses. Ça explique que même si nous on fait nos efforts, si c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le reste, ça explique énormément de choses. D'accord? Donc, en tout cas, le point du cours d'aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui on ne peut pas jeûner, on n'est pas des losers, au contraire, on est des winners.
Bien, bien, hein.